Voilà, il m'a été suggéré de vous parler ce soir du cardinal Newman et spécialement de sa doctrine concernant le développement de la doctrine chrétienne, le développement du dogme, qui de fait a beaucoup retenu sa pensée. Pour vous en parler, même si j'ai moi-même beaucoup lu de Newman, je vais m'inspirer d'un ouvrage très éclairant, simple à lire, qui a été publié par un très bon connaisseur de Newman en France, le cardinal Jean Honoré. Donc je me suis inspiré librement d'un chapitre de son livre sur Newman, sa vie et sa pensée, pour vous parler. Et je le fais avec grand plaisir parce que Newman est une figure extrêmement attachante dans l'histoire de l'Église. Et comme vous le savez, il a été récemment, le 19 septembre de l'an dernier, proclamé bienheureux par le pape Benoît XVI lors de son voyage pastoral en Grande-Bretagne, qui fut d'ailleurs une superbe réussite. Newman est né en 1801, il est mort en 1890. Il était de santé fragile et il est mort fragile à l'âge de 89 ans, presque 90, presque 90. L'ouvrage qui porte ce titre, Essai sur le développement, c'est un ouvrage qu'il a publié juste avant son passage à l'Église catholique. Il s'est converti à la foi catholique de manière explicite. Il était déjà depuis quelque temps catholique de cœur. Il s'est converti au mois d'octobre de 1845, quand il avait 44 ans. Et ce fut un événement considérable pour lui, mais aussi pour toute l'Église. Pour lui, qui était aussi britannique qu'on peut l'être, très attaché à l'Église anglicane, par tempérament un peu allergique à certaines formes de la piété catholique, mais à la suite d'un long itinéraire intellectuel et spirituel, il a jugé qu'il devait en conscience quitter sa chère Église anglicane pour devenir catholique, se faire ordonner prêtre catholique, et puis travailler comme prêtre catholique. Pendant les années de sa relative jeunesse, dans les années de 1835 et les années suivantes, Newman a cru pouvoir trouver une solution au tourment qui l'habitait, dans ce qu'il appelait, avec certains de ses confrères anglicans partageant les mêmes idées que lui, une via media, une voie intermédiaire entre l'anglicanisme et le romanisme, comme il disait avant de devenir catholique, il parlait du romanisme, avec d'ailleurs un certain retrait, une certaine distance. Il reprochait à l'anglicanisme, surtout à cause de sa frange libérale et de sa frange évangélique, il reprochait à l'anglicanisme de ne pas être fidèle à la tradition des pères de l'Église, de s'être laissé contaminer par certains aspects de la réforme protestante, tandis qu'il reprochait à l'Église catholique d'inventer des dogmes qui étaient des nouveautés par rapport à la tradition patristique. Par exemple, le Concile de Trente lui paraissait un peu suspect de rupture avec la tradition authentique des pères. Et puis, il supportait assez mal, mais sans connaître ces choses de l'intérieur, il supportait assez mal le culte qu'il y avait autour du pape, et aussi certaines formes typiques de la piété catholique, qu'il connaissait de loin, par ce qu'il voyait parfois en entrant dans une église catholique. Mais cette via media, cette voie moyenne, dont il a quelque temps caressé l'espoir qu'elle serait typique d'une église anglicane renouvelée, et auquel il a consacré avec certains de ses collègues anglicans ce qu'on a appelé le mouvement d'Oxford, il était donc enseignant à Oxford, un brillant intellectuel, et il a lancé un mouvement qu'on appelle le mouvement d'Oxford, à savoir des anglicans voulant être corrects sur le plan doctrinal, fidèles à la plus antique tradition de l'Église. Il a dû reconnaître l'échec de cette voie moyenne. Il s'est rendu compte qu'on ne peut pas inventer une religion, on ne peut pas inventer une voie moyenne. Une religion, ça ne s'invente pas. Il avait la même idée que celle de Benoît XVI ou de la liturgie, on ne peut pas fabriquer une liturgie. Elle doit naître de sources profondes. Mais le problème demeurait entier. Comment renouer avec la tradition, donc revivifier l'Église anglicane, et comment comprendre les prétentions de Rome d'être fidèle à la tradition apostolique et à celle des pères, alors que apparaissaient, selon lui, à l'époque, dans l'Église catholique, des innovations, notamment celle du Concile de Trente, la doctrine du Concile de Trente. Or, il s'est engagé dans une réflexion profonde, c'est un homme qui prenait du temps pour réfléchir, pour voir qu'est-ce qu'on entend par tradition. Et il a eu cette idée qui va se développer chez lui, cette idée que la tradition ne consiste pas à garder jalousement un dépôt de vérité toute faite, consistant en une série d'énoncés doctrinaux, mais que la tradition est une réalité vivante. Et que s'il faut être fidèle à l'origine, on y est fidèle comme à une vie qui se développe et qui grandit un peu comme nous-mêmes. Nous demeurons identiques depuis notre naissance jusqu'à notre âge avancé. C'est toujours la même personne. Et pourtant, nous connaissons des évolutions, un développement, une croissance. Il y a une nouveauté, mais il y a aussi une continuité. Et il va essayer d'explorer une conception vivante de la tradition. Et sa réflexion va l'amener à écrire cet ouvrage sur le développement, un essai sur le développement. Auparavant, il avait déjà été amené à réfléchir dans cette direction-là quand il avait, comme anglican et jeune anglican encore, écrit un essai sur la doctrine des Ariens. Les Ariens, ce sont ces hérétiques qui ont, au 3e siècle, 4e siècle, qui ont nié la vraie divinité de Jésus. Et Newman leur a consacré à l'étude des Ariens et à l'étude des pères de l'Église qui avaient précédé le Concile de Nicée en 325. Il a consacré un ouvrage scientifique extrêmement développé, consacré à l'étude des doctrines ariennes et de la doctrine du Concile de Nicée. Mais une fois arrivé autour des années 40, donc quand il avait 40 ans, Newman s'est senti pressé de reprendre la question parce que il sentait de plus en plus en lui la nécessité de se tourner vers l'Église catholique romaine. Déjà quand il avait écrit son ouvrage sur les Ariens, il avait été bouleversé en constatant que il retrouvait l'Église anglicane dans un certain nombre de positions hérétiques à l'époque du IIIe et du IVe siècle, tandis que là où se trouvaient les champions de l'orthodoxie, comme Athanase d'Alexandrie, là où se trouvaient les champions de l'orthodoxie qui ont permis au Concile de Nicée de triompher et de maintenir la foi en Jésus, Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même substance que le Père, là où se trouvaient les champions de l'orthodoxie, il était obligé de le reconnaître, se trouvait aujourd'hui l'Église catholique. Et cela l'a bouleversé, mais l'a amené à travers un itinéraire spirituel et intellectuel exemplaire à retravailler la question, et il l'a fait dans ce grand essai sur le développement dont je voudrais vous parler maintenant. C'est un ouvrage qu'il a commencé en novembre 1844 et qu'il a terminé à la hâte en octobre 1845. Car en rédigeant ce livre, L'essai sur le développement, l'évidence intellectuelle et spirituelle s'est imposée à lui que la seule Église qui est fidèle à la tradition apostolique, tout en étant capable de s'adapter aux différentes périodes de l'histoire, c'était l'Église catholique. Et la dernière partie de l'ouvrage a été écrite très vite, de manière un peu négligée, tellement, comme on dit dans un proverbe populaire, on dit d'un cheval qu'il sent l'écurie. Quand un cheval sent que l'écurie n'est pas loin, il galope, il se précipite. Eh bien, Newman a senti que sa demeure spirituelle ne pouvait être que l'Église catholique. Il avait cherché longtemps et maintenant il avait l'évidence qu'il devait passer à l'Église catholique. Donc, les derniers chapitres du livre sont écrits à la hâte. Ça devenait inutile, il était conquis. Et le 8 octobre, si j'ai bon souvenir, de 1845, il est allé trouver un religieux italien, un passionniste, connaissant bien l'anglais, qui était de passage à Littlemore, pas loin de Oxford, là où il vivait une vie d'ascète, une vie retirée, une vie un peu monastique, avec quelques compagnons partageant son itinéraire. Il est allé trouver ce religieux, et en deux fois, un soir et une matinée, ça a duré plusieurs heures, il a fait la confession générale de sa vie, et il a fait profession de foi catholique.